Jésus et les malades. Une émission proposée par Joseph Stricher et Alain Welsch.
Joseph Stricher, bonjour.
Bonjour.
Jésus et les malades, 9e émission. L'enterrement interrompu. Vous avez toujours des titres accrocheurs. Et nous sommes ici chez Luc au chapitre 7, versets 11 à 17. Pourquoi un enterrement interrompu ?
Eh bien, parce que cet enterrement qui sort de la ville, un jeune homme, le fils unique d'une veuve, doit évoquer un peu quelque chose au lecteur de la Bible, doit évoquer le grand prophète Élie. Vous savez que Élie, c'est le modèle même du prophète. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand dans une famille juive, on fait la circoncision d'un petit garçon, le huitième jour, il y a le siège d'Élie. Parce qu'on dit que le Messie, et tout garçon juif peut-être, le Messie, bien sera annoncé par le retour d'Élie. Donc Élie, qui était le grand combattant de la cause de Dieu, du Dieu unique contre les Baals, c'est dans le livre des Rois qui nous raconte ça, eh bien, Élie, un jour, a rendu le fils unique à une veuve. Ça s'est passé à Sarepta. Et ici, nous avons ce cortège de deuil, et Jésus va refaire les gestes du prophète Élie. Et ce cortège de deuil, cet enterrement, cette marche vers la mort, va se transformer en marche vers la vie. Il y a deux enterrements interrompus dans l'œuvre de Luc, enfin dans l'évangile de Luc plutôt. Un garçon, ici, une fille, on y viendra bientôt au chapitre 8, et il y a également deux enterrements interrompus dans les Actes des Apôtres, avec Pierre qui rend la vie à une femme, et Paul qui rend la vie à un homme. Regardez, deux fois un homme et une femme, aussi bien dans l'Évangile que dans les Actes. Nous retrouvons là cette façon de raconter les histoires très, très caractéristiques de Luc, avec, on pourrait presque dire, cette parité homme-femme que l'auteur aime beaucoup, beaucoup mettre en valeur.
Donc il y a des connexions dans toute l'écriture qui sont d'une grande importance. En amont, donc, il y a ce fameux récit avec Élie et Élisée, et puis ensuite, il y a les Actes, la suite de l'Évangile.
Oui, des connexions internes à une œuvre, et aussi des connexions externes à l'œuvre, mais par rapport à la Bible, avec ce grand thème de l'accomplissement des Écritures. Et je crois que plus on lit une œuvre, enfin comme celle de Luc, mais c'est valable pour d'autres, bien, nous découvrons des choses et notre lecture va s'enrichir. C'est pour ça que nous faisons cette lecture un peu lente, où nous laissons résonner les différents textes, parce que l'auteur, lui, a bien conscience de cela et il trempe sa plume quand il écrit, littéralement trempe sa plume dans l'Ancien Testament.
Voilà, on va découvrir donc ce passage. Nous sommes au chapitre 7. Chez Luc, versets 11 à 17.
Or, Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle, et lui ne pleure plus. Il s'avança et toucha la civière. Ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il rendait gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région.
Ce passage est très court, c'est succinct, mais c'est superbement bien construit, comme toujours. Alors, découvrons au début de ce passage la manière dont l'évangéliste plante son décor.
Oui, c'est d'abord, on va élargir, moi je l'ai déjà fait, mais immédiatement le contexte antérieur, qui est l'histoire que nous avions vue dans l'émission de radio précédente, celle d'un centurion qui envoie une délégation auprès de Jésus et un esclave quasi mort qui est guéri. Et ici, le fils unique d'une veuve. Ces deux miracles associés nous font penser à ce que Jésus avait dit dans le discours qu'il a tenu dans la synagogue de Nazareth, discours inaugural. Il avait fait allusion à Élie et Élisée. Et maintenant, ce que Jésus a dit s'accomplit. Ce que Jésus accomplit a déjà été annoncé dans l'Ancien Testament et va se continuer dans les Actes. Vous voyez, c'est ces espèces de, comment je vais dire, des espèces de connexions entre les textes qui apportent une très grande profondeur à ce texte. Le cadre immédiat, le cadre géographique, bien, c'est Naïn. Aujourd'hui, là, le village existe et je suis passé il y a quelque temps. C'est un village arabe, donc en Galilée. Mais l'archéologie, les fouilles archéologiques nous disent que ce village n'a jamais été entouré de remparts. Donc, il n'y a pas de porte.
Alors, pourquoi l'évangéliste nous trompe? J'allais dire, pourquoi il invente des portes?
Ça a scandalisé, figurez-vous, j'ai un ami bibliste qui aime bien les choses nettes et il a une espèce de, je ne sais pas, une dent contre Luc en disant « Oui, Luc n'est pas toujours très fiable, il ne connaît pas la Galilée ». Il a peut-être raison, c'est très probable que Luc n'a jamais été en Galilée. Et il s'imagine, Naïn, il a entendu cet épisode et il s'imagine Naïn, à la façon d'une ville gréco-romaine avec des remparts, avec des portes. Ça, c'est tout à fait possible. Bon. Donc, il ne nous trompe pas volontairement, mais il se représente la scène. Vous savez que le même Luc nous a montré comment des gens montent sur un toit et cassent les tuiles, alors qu'il n'y a pas non plus de tuiles. Mais d'un autre côté, cette erreur involontaire, certainement, dénote autre chose. C'est que dans le monde de Luc, il y a une coutume qui est celle de la visitation. Les rois hellénistiques vont visiter leur ville et s'arrêtent aux portes de la ville. Et aux portes de la ville, les gens viennent voir le roi et lui dire « Majesté, voilà, nous avons un maire, il est bien ou il n'est pas bien. » Et le roi les écoute. Et comme ça, quand il va voir les responsables de la ville, il sait déjà quelle est leur gestion. Le roi également rend la justice. Le roi s'arrête aux portes de la ville pour tout cela. Eh bien, ce Jésus, vous voyez, qui est qualifié de Jésus au début du texte, et Jésus se rendit à Naïn, eh bien, nous allons voir bientôt comment le narrateur va parler de lui. Il va dire « Et le Seigneur fut pris de pitié ». C'est-à-dire, nous avons le roi, Jésus, Seigneur, Sire, le roi qui vient et aux portes de la ville, il va rendre la justice et il va restituer à une pauvre veuve ce qu'on lui a volé et le plus grand des biens. On ne peut pas lui voler plus. On lui a volé à cette pauvre femme son fils unique.
Il y a là aussi un décalque avec l'Ancien Testament, vous l'aviez déjà signalé, avec donc Élie et ce qui s'est passé à Sarepta. On retrouve là une veuve et un fils unique qui est en train de mourir.
Oui, exactement. Donc les mêmes mots et ça une fois de plus, la façon de raconter n'est jamais neutre. Et l'intérêt de cette lecture que nous faisons, ce n'est pas simplement dire « mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi me raconte-t-il de cette manière-là » Et par exemple, la veuve de Sarepta, mais aussi le geste de Jésus, il le rendit à sa mère. Tout ça, ça sort tout droit du premier livre des Rois au chapitre 17.
Alors revenons sur cette fameuse expression du narrateur qui ne parle pas de Jésus, mais qui dit « en la voyant », donc cette veuve, « le Seigneur fut pris de pitié pour elle ».
Oui, et bien c'est la première fois que dans l'Évangile, le narrateur parle ainsi. Pour faire pédant que je parle comme ça, mais je voudrais, dans l'analyse des récits, donner une clé fort importante. Je suis en phase de récit, je suis lecteur, je suis auditeur, eh bien, essayons d'entendre les différentes voix qui s'adressent à nous. Comme ici à la radio, vous entendez deux voix, une troisième voix qui lit le texte, eh bien, il en va de même dans un récit. Il y a celui qui raconte l'histoire, puis il y a les différents personnages qui interviennent. Celui qui raconte l'histoire, c'est comme au cinéma, on dit la voix off. Il était une fois, tout au début, il était une fois un royaume qui vivait en paix. Et puis, tout à coup, image, et puis je vois le roi qui dit « Ah, celui qui me débarrasse du méchant dragon aura la main de ma fille. Bon. » La voix du narrateur, « Or, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. » Et puis, le narrateur continue, et tout à coup, il change donc son personnage dont il me parle, qui s'appelle Jésus, tout à coup, il l'appelle « et le Seigneur ». Or, le mot « Seigneur » jusqu'à présent est à figurer seulement dans les personnages divins, par exemple. L'ange du Seigneur s'adressant en berger, « Je vous annonce la naissance d'un sauveur qui est Christ Seigneur. » Ou bien des personnages remplis d'Esprit Saint. C'est le cas, par exemple, d'Élisabeth, qui dit « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur ?» Donc, c'est seulement des personnages non humains, anges ou bien démons, parce que les démons qui parlent aussi du Fils de Dieu, etc., ou bien des personnages remplis d'Esprit Saint qui disent qui est Jésus, mais maintenant, c'est la première fois que le narrateur lui-même utilise cette expression. Et pour l'associer à un verbe qui veut dire littéralement « il fut pris aux tripes, aux entrailles ». C'est quand même extraordinaire. Les entrailles du Seigneur. Comment mieux dire dans cette association totalement saugrenue, totalement bizarre, eh bien, ce Jésus qui est Seigneur, mais qui a des entrailles. C'est des entrailles humaines et qui fut pris de pitié, qui fut ému. Le langage biblique, très beau langage du cœur, je rappelle cela, ne place pas les sentiments au même étage que nous. Nous, nous mettons les sentiments au niveau du cœur. Eh bien, eux, je gesticule. Eux, ils descendent d'un cran. C'est-à-dire, ils mettent les sentiments dans les entrailles. Mais ce sont les entrailles maternelles. C'est la matrice de la maman. Là où elle porte son enfant. C'est les sentiments les plus forts d'une mère ou d'un père. Et quand vraiment je suis pris au ventre, j'ai mal au ventre. Quoi. C'est devant une misère, j'ai mal au ventre, on dit. Mais c'est aussi un peu notre langage. Le cœur est plutôt l'organe du sentiment. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bon. C'est l'organe de la décision. Mais je voudrais montrer que dans le beau cantique, vous savez, de Zacharie, on parle des entrailles de miséricorde de notre Dieu. On parle également des entrailles du Père du Fils prodigue. Quand le Fils prodigue revient, eh bien, le Père fut saisi aux entrailles, des entrailles de ce Père. C'est aussi le bon Samaritain. Le bon Samaritain fut pris aux entrailles. Vous voyez, ce sont les sentiments de miséricorde, les sentiments de compassion qui sont ceux de Jésus et qui donc s'adressent à cette femme pour lui dire « ne pleure plus ».
Alors revenons sur cette expression « ne pleure plus », on dirait que Jésus est vraiment l'homme de la compassion. Il est proche de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont dans les larmes.
Oui, d'ailleurs, je voudrais faire une petite ouverture. Je me suis rendu compte, j'ai eu la chance d'aller il y a 5-6 ans en Asie, à l'occasion d'une assemblée générale de la Fédération biblique internationale. Vous savez que je dirige le service Évangile et Vie, qui est un service de pastorale biblique, et nous sommes fédérés au niveau international. Et en allant à Hong Kong, eh bien, je me suis rendu compte que nos amis d'Asie, eh bien, sont très très attentifs à cela. Pourquoi ? Eh bien, parce que le bouddhisme, la compassion, c'est un des thèmes, le Bouddha de compassion, un des thèmes fondamentaux du bouddhisme. Et là, c'est une passerelle, un point important entre ce Jésus, la compassion de Jésus, la compassion du Bouddha. Il y a des points de convergence, de dialogue, et qui font que des gens, par exemple du bouddhisme, sont sensibles à un passage comme ça, très, très fort. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ce Jésus qui regarde des yeux pleins de larmes. Vous voyez, de nouveau, la beauté de cet échange de regards. Une femme qui est toute tournée vers l'intérieur, tournée vers sa perte, vers son fils unique, qui pleure, qui dirige le cortège. Ce cortège qui sort de la ville, dirigé un peu par cette femme, enfin, il y a les porteurs devant, elle mène le deuil, et un cortège de vie qui rentre, les deux cortèges se croisent au port de la ville, et un croisement également de regards, le regard de compassion de Jésus qui se porte sur les yeux mouillés de larmes d'une femme, et tout commence par la parole de Jésus, « Ne pleure plus ». Or, Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle, et lui ne pleure plus. Il s'avança et toucha la civière. Ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et il rendait gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région.
Il y a cette compassion de Jésus, cette parole ne pleure pas, et puis il y a ce fameux geste, il va s'avancer et il touche la civière. Toucher la civière, ça veut dire être au contact de l'impur, puisqu'il y a un mort qui est couché dessus.
Oui, Jésus contacte normalement une impureté rituelle, non pas morale évidemment, mais il touche inutilement la mort et l'objet sur lequel est couché le mort. Nous avions déjà vu que le lépreux, Jésus aussi l'avait touché. Et pour le moment, il touche. Et rien qu'à travers ça, nous devinons que c'est pas Jésus qui va être contaminé par la mort, mais c'est lui, Jésus, qui va contaminer la mort. Il y a un flux, et c'est pas le flux mortifère qui est le plus fort, mais c'est le flux vital, à travers ce Seigneur qui est présent, et nous sentons ce langage post-pascal de Luc. Parce que le mot « Seigneur » va être utilisé par la communauté d'après Pâques pour désigner Jésus. Jésus Seigneur désigne le ressuscité. Ici, dans le récit de Luc, nous sentons déjà sous sa plume la foi de celui qui me parle. Il me laisse déjà deviner qui est le maître de la vie, qui est le maître de la mort. C'est Jésus Seigneur. Le Seigneur peut toucher et le Seigneur va parler et le Seigneur va ordonner. Et tout change de sens, tout change d'orientation sur le geste et sur la parole du Seigneur.
Alors il y a cette parole, encore une fois, avec cette connotation de résurrection, « Réveille-toi ». Et il y a là, je veux penser à Françoise Dolto qui aime bien cette expression, parce qu'au début, il y a un fils, un enfant, il nous dit, et puis Jésus dit non pas un enfant ou jeune homme, mais il dit « Jeune homme, oui, justement, lève-toi ».
Oui.
C'est plus le même.
C'est plus le même. Et elle voit cette femme bon, qui a son fils unique, etc. Et se regarde plein de larmes. Et d'un seul coup, un autre regard qui est porté sur lui. « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Bon, c'est très très puissant, disons comme parole. Mais je rappelle, je ne veux pas faire pédant, mais que le verbe egeiro ou le verbe anistémie, qui signifie se réveiller du sommeil ou se lever du sommeil, je suis couché, je dors, bon, je me réveille et je me lève, ces deux mots qui sont de la vie de tous les jours, eh bien, sont vraiment les mots significatifs tout à fait typiques de la résurrection. Et je trouve un peu dommage que nous ayons ratiboisé un peu, raboter notre langage résurrectionnel en disant toujours la même chose, Jésus ressuscité. Certaines traductions, par exemple, bon, je sais que cela a été critiqué, mais la nouvelle traduction qui est sortie, bien, a essayé de garder ce langage-là, Jésus a été réveillé, ou bien Jésus a été relevé, c'est tout à fait juste, c'est le sens littéral du terme, et c'est ici passage de la mort, à passage à la vie.
On aimerait bien savoir ce que le mort dit, puisqu'on nous dit que le mort s'assit et il se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère, mais on ne sait pas de quoi il parle.
Oui, c'est que le récit n'est jamais, jamais de type anecdotique. Hein, quelqu'un qui voudrait faire de l'anecdotique ou même du spectaculaire, eh ben, il nous raconterait tout ce que le mort va dire. Mais c'est pareil dans l'évangile de Jean, avec la résurrection de Lazare. Ah, on aimerait bien quand même que Lazare, surtout que Lazare, lui, c'est depuis 4 jours. C'est quand même intéressant, quelqu'un qui est au bout de 4 jours. Alors Lazare, comment que c'est, etc. Ou bien Lazare avec ses sœurs Marthe et Marie, nullement. Ici, simplement, il parle. Comme si, pour nous dire que quelqu'un qui parle est rétabli dans sa fonction de nouveau humaine. Et c'est assez curieux, le mort se mit à parler. Hein. Et il est assis. Et ce mort, Jésus le rendit à sa mère. Alors là, je crois que nous sommes tout simplement, pourquoi Jésus le rendit à sa mère, eh bien parce que Élie rendit le fils unique, la veuve de Sarepta, Élie le rendit à sa mère. C'est un clin d'œil, c'est une petite parodie du texte Élie. À travers cela, Jésus est le nouvel Élie. Mais à travers ça aussi, vous voyez, je tire sur une ficelle, c'est qu'à l'époque de Jésus, Élie venait inaugurer les temps nouveaux. Donc les temps nouveaux ici sont inaugurés. Et d'ailleurs, que dit la foule? Elle dit « Un grand prophète s'est levé ». Et c'est bien le signe que cette foule, comme dans un chœur... Non, j'ai fait un lapsus. Je viens de me rendre compte que j'ai fait un lapsus. C'est pas la foule qui parle, c'est un peuple. C'est le peuple qui dit « Dieu a visité son peuple ». La foule, voilà, ce soir marché, il y a une foule. Et maintenant, la foule est devenue un peuple. Au milieu de ce peuple, il y a un vivant qui était mort. Il y a le Seigneur qui est présent. Et ce Seigneur, que fait-il? Eh bien, il vient visiter. C'est celui qui vient inaugurer le règne de Dieu, c'est celui qui vient visiter de la part de Dieu le peuple, c'est celui qui vient lui apporter le salut et il vient de le montrer. Il n'est pas seulement celui qui guérit les malades, mais c'est celui dont l'œuvre de salut peut agir par-delà la mort en donnant la vie. Vie provisoire, parce que ce jeune homme de Naïn va mourir pour de bon par la suite, mais aussi nous sentons que ça fait allusion à une autre vie. Ce passage de la mort à la vie n'est pas seulement concerne pas seulement un jeune homme, mais finalement concerne chacun d'entre nous.
Merci Joseph Stricher.
C'était Jésus et les malades, une émission proposée par Joseph Stricher et Alain Welsch.